Souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Philippiens chapitre 3, verset 17 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Au nom de Jésus. Tous ensemble, imitez-moi, frères, et fixez votre regard sur ceux qui se conduisent suivant l'exemple que vous avez en nous. Beaucoup, en effet, je vous le disais souvent et le redis maintenant, en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition, leur Dieu c'est leur ventre, et leur gloire, ils la mettent dans leur honte, eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Ainsi donc, frères bien-aimés, que je désire tant revoir vous, ma joie et ma couronne, tenez ferme de cette façon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. D'où le thème de notre culte d'aujourd'hui, dévoiler les faux prophètes et les faux enseignements. En lisant ce texte, je peux comprendre le désamour de certaines personnes vis-à-vis de Paul, même si je ne le partage pas. Et d'ailleurs, les protestants, paraît-il, ont une sacrée réputation de sobriété dans sa façon de penser, de parler, de s'en comporter. Alors, qui parmi nous oserait parler comme Paul ici en disant « Frère, imitez-moi » C'est un peu orgueilleux quand même, à première vue. « Frère, imitez-moi » Et il ajoute même « fixez du regard ». Donc on peut penser qu'il pousserait peut-être le bouchon assez loin, avec un ton très provocateur, pareil. Et logiquement, la question qui vient tout de suite à notre esprit, pourquoi ose-t-il le ton ainsi? Pourquoi tant d'agressivité de la part de Paul? Oui, humainement parlant, lorsqu'un individu est agressif, c'est parce que peut-être il est en train de traverser un moment difficile dans sa vie. Et c'était le cas pour Paul ici, car il était en prison en même temps, à Rome. De plus, il avait une grosse inquiétude sur l'avenir de l'Église à Philippe, à cause de l'existence même au sein de la communauté, je dis au sein de la communauté, mais pas à l'extérieur, des personnes qui n'attendaient qu'une seule chose, profiter le moment où Paul ne serait plus là. Et répandre les hérésies, les fausses doctrines à l'intérieur de l'Église. Et pour vous faire comprendre l'ampleur de cette crainte de Paul, voyons un peu les mots très durs que Paul avait utilisés contre eux au verset 2, même si on ne l'a pas lu ici, si vous avez vos Bibles sous vos yeux, au verset 2, voilà ce qu'il dit. « Prenez garde aux chiens !» Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Dans d'autres versions, prenez garde aux mutilés. Sans les nommer directement, Paul fait allusion à ceux qui utilisaient la circoncision comme prétexte. Prétexte non pas dans le but de respecter la loi, Paul, il était d'accord pour la circoncision si c'était vraiment dans le respect de la loi en tant que telle, comme forme d'alliance. Mais ce que Paul n'admettait pas, c'est de transformer cette circoncision comme une arme de destruction contre tous les enseignements de Paul. Et donc le fait de les appeler les chiens, les mauvais ouvriers ou partisans, et moi je préfère plutôt la traduction mutilation à la place de circoncision, c'est pour dénoncer qu'ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas vrais. Si seulement ils étaient convaincus de cela, Paul le respecterait. Mais ils se cachaient derrière ce prétexte pour tromper l'opinion de la communauté, comme quoi il serait plus pieux que Paul. Or, l'utilisation des termes comme chien ici, qui est un animal qui fait partie des animaux les plus impurs chez les Juifs, faux ouvrier, un usurpateur, manipulateur, et enfin partisan de mutiler, c'est une forme d'ironie de Paul qui ne les considère pas comme des vrais circoncis, mais des mutilés, c'est-à-dire des personnes qui se mutilent dans leur chair, dans le but d'avoir la faveur des dieux, comme les prophètes Baal. Vous voyez jusqu'où Paul va dans son argumentation. Pour vous, la circoncision, ce n'est pas la forme de l'alliance que Dieu avait instaurée avec Abraham, c'est une mutilation pour acheter la faveur de Dieu. Et là, il les considère comme les faux prophètes, les prophètes de Baal, qui se sont mutilés, rappelez-vous, pour avoir la faveur de leur Dieu. Et donc, si Paul dit clairement et ouvertement, imitez-moi, ce n'est pas dans le sens de dire, je m'érige en exemple. Non, c'est pas ça. Ou en modèle. C'est plutôt un appel vers la communauté de toujours continuer leur démarche en conformité avec son enseignement, et d'être toujours sur les traces de Paul. Voilà l'appel. C'est un appel à faire très attention, car l'Église, il sait très bien, c'est la réalité, que l'Église ne peut pas éviter les ennemis de l'intérieur, mais de bien être armée pour détecter les faux enseignements et de ne pas dévier l'enseignement que Paul les avait donné. Voilà le sens de cette phrase, imitez-moi. Chers frères et sœurs, une communauté mûre dans la foi peut reconnaître les faux enseignements qui viennent de l'intérieur même de l'Église. Et je trouve que ce texte est vraiment d'actualité d'aujourd'hui, de l'intérieur de l'Église. Et si je dis ici l'Église avec grand E, c'est toute la communauté, l'Église invisible de Jésus-Christ. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, comme dans le cas de notre texte, c'est que ces gens-là qui véhiculent ces faux enseignements, ils sont forts, parce qu'ils ont une apparence morale attrayante. C'est par ce moyen-là qu'ils trompent les gens. Une apparence morale attrayante, comme ces Juifs qui mettent en avant qu'ils respectent à la lettre la loi sur la circoncision, mais qui ne sont pas convaincus même de cela. Ils utilisent le légalisme et refusent le salut gratuit par la foi. Pour quelle raison? Parce que pour eux, l'enseignement de Paul était trop facile. C'est trop facile de dire, il suffit de croire en Jésus crucifié à la croix et ressuscité et tu es sauvé. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas nous sauver si facilement que cela. Il faut avoir une petite participation. Il faut donner une petite contribution. Ça, on devrait participer à notre salut. Non, dit Paul. Et donc, humainement parlant, quel enseignement qui attirerait les gens? C'est plutôt dans ce sens où il faut participer. Contrairement à cette grâce qui est abondante. Il suffit de croire pour être justifié? Eh bien oui. Heureusement, il n'y a plus rien qu'on puisse ajouter à cela, même si, Je dis bien, même si nos dévouements et nos formes de piété envers Dieu sont très importantes, je ne minimise pas l'éthique, je ne minimise pas le piétisme, mais nos dévouements ne pourront jamais, et je mets en majuscule le mot jamais, remplacer la foi qui est un don de Dieu, qui vient de Dieu et qui est la seule norme pour notre justification. Alors Paul est en train de révéler ici et de montrer le vrai visage caché de ces prophètes, ces faux prophètes. Au verset 19, il dit « Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. » C'est-à-dire qu'ils dévoilent que leur soi-disant ministère a une fin intéressée. Ce n'est pas comme Paul qui s'est donné corps et âme pour l'amour de cette grâce de Dieu. Mais pour eux, il y a un intérêt qui est derrière, qui les motive. Et donc la façon dont Paul utilise le verbe « imitez-moi » a un double objectif. D'un côté, cela a pour but d'exhorter la communauté à être fidèle aux enseignements de Paul, à donner et de toujours être conforme à cet enseignement-là, mais aussi, de l'autre côté, il cible les personnes qui étaient en concurrence avec lui. Malheureusement, ça existe dans l'Église. Il y a des gens qui s'investissent dans le ministère de l'Église juste par concurrence, comme si on était des concurrents, mais pas des frères et sœurs en Christ. Ça existait dans la communauté de Philippe. Il s'impliquait dans la vie de l'Église avec une mentalité de compétition vis-à-vis de Paul. À un certain moment même, rappelons-le, il y a eu des exorcistes itinérants qui voyaient Paul guérir les malades. Alors, ils se sont aussi mis à la tâche, car ils étaient animés par un esprit de jalousie et de compétition. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, on peut voir cette histoire. Un jour, lorsqu'ils ont vu une personne qui avait un esprit impur, voici ce qu'ils le disaient. « Je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame. » Mais l'esprit mauvais leur répliqua, « Jésus, je le connais. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous donc ?» Actes chapitre 19, versets 13 et 15. Vous imaginez ce qui s'est passé? Je ne continue même pas l'histoire. Le démoniaque s'est jeté sur ces gens-là. Ils ont failli mourir. Ils étaient blessés. Rien que pour imiter Paul. Donc vous voyez un peu le sens de mot « imiter ». Moi, il y a certaines personnes qui m'imitent, mais ils ne sont pas vrais. Mais vous, imitez-moi, c'est-à-dire continuez votre démarche. Donc cette phrase a deux objectifs. Et face à ces personnes-là, Paul n'est pas du tout tendre. Là, Paul, il ne blague pas. Il est même assez cash contre eux en disant « Ces gens-là sont des faux apôtres, de faussaires camouflés en apôtres du Christ. Et rien d'étonnant à cela, Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. C'est donc peu de chose pour ses serviteurs de se camoufler en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs œuvres. » 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Comme Satan qui imite le Christ, qui imite la lumière, mais qui n'est que Satan. Vous voyez, il est très clair dans sa position. Alors, la question, comment Paul exhorte la communauté face à ces faux prophètes et ces faux apôtres? Il incite les membres de la communauté à tenir bon, à être ferme. Et dans la forme de ce verbe, Paul lance un appel de résistance. Donc ici, il y a un petit groupuscule de résistants. La majorité a été piégée. Il reste un petit groupe, les résistants. Et vous savez tous ce que c'est qu'un résistant. Vous qui avez connu la guerre, par exemple. Un petit groupe, mais qui tient bon? Paul s'adresse à ce groupe-là. « Tenez bon, je sais que vous souffrez, mais tenez bon les résistants du Seigneur. » Cela signifie que ce ne sera pas évident. Ce sera une bataille acharnée. Ce ne sera pas facile. Et il espère que même si lui ne sera plus parmi eux parce qu'il était incertain de sa destinée, ils pourront tout de même tenir bon et ne pas se laisser faire, ni se faire piéger par la ruse de l'ennemi. Tout au long du ministère de Paul, en scrutant les épîtres pauliniennes ou deutéropauliniennes, peu importe, il avait comme deux combats, Paul. Son premier combat, c'est d'affirmer qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ, non pas par la volonté humaine. Lisez tous les premiers chapitres de Paul. Il affirme cela. Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas par la volonté de Dieu. Pourquoi la raison de cette insistance? C'est parce qu'il y avait des individus qui ont mis en doute le titre d'apôtre de Paul. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai lu une fois un commentaire que je trouve juste, qui disait « Les 11 apôtres étaient trop pressés pour remplacer Judas en faisant ce jeu de tirage au sort pour compléter les 12. » Matthias, mais on n'a jamais entendu parler de lui. Et d'après ce théologien, finalement, le 12e n'est que Paul. Et je trouve que c'est juste. Parce que c'est Jésus qui l'a choisi. Ce n'est pas le tirage au sort. Même les 11 peuvent se tromper. Même s'ils étaient les apôtres de Jésus-Christ. Et je ferme la parenthèse, c'est une opinion personnelle que je partage avec ce théologien. Et ici, on voit bien, dans ce premier combat, qu'il mettait l'accent sur son titre d'apôtre. Dans la plupart de tous ses épîtres, il donne le temps pour l'apôtre de Jésus-Christ, par appel et par la volonté de Dieu. Et en parallèle avec ce premier combat, il menait aussi avec acharnement le combat contre l'hérésie et les faux prophètes. Voilà le deuxième combat. Ces deux combats se rejoignaient. Parce que si le titre d'apôtre de Paul est mis en cause, alors son enseignement aussi logiquement ne tiendrait plus la route. Mais Paul invite la communauté de Philippe à ne pas se laisser impressionner par les titres. Même il met en cause son titre. Ce n'est pas parce que je suis apôtre que vous devriez m'écouter. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le titre que les gens accordent au prédicateur, mais au contenu de son message. Voilà à quoi vous devez se contenter. Ce ne sont pas les titres qui garantissent la véracité de l'enseignement, c'est l'enseignement. Ce n'est pas parce que tu es un grand rabbin, ce n'est pas parce que tu es un docteur en théologie que ton enseignement est juste. Qu'est-ce que tu dis? Quel est le contenu de ta parole? Et c'est ça le problème avec les faux prophètes aujourd'hui. Bishop, archibishop, prophète de Dieu, pour dominer la mentalité des gens et pour dire qui oserait critiquer ce prophète puisqu'il est prophète. Non, écoutons ce qu'il dit. Ayons un esprit critique, quel que soit le titre qu'il a. Un jour, quand Paul et Silas étaient à Bérée, les Béréens imposaient à Paul même, regardez bien, à Paul, une sorte de test, de vérification scripturaire de son message. Est-ce que ce qu'il dit est vrai selon les Écritures? Et il est dit qu'il vérifiait avec beaucoup d'ardeur en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Et Paul était ravi de cela. Au lieu d'être fâché, il était content. Il dit, ça c'est une bonne communauté. Cette attitude-là, Paul avait appréciée. Car pour lui, c'est un signe extérieur qui prouve que telle communauté est bien enracinée dans la parole. C'est encourageant de voir, bien sûr, une paroisse avec beaucoup de membres en elle, mais ce qui est encore plus réjouissant, c'est de voir qu'elle est vraiment stable dans la foi, édifiée, enracinée dans la parole, et capable de trier et de détecter toutes sortes d'anomalies doctrinale. Et comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14, atteindre l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ et qui ne seront plus ballottés par les flots des vents d'enseignement.